France Musique.
Un extrait de ce premier quatuor à cordes de Smetana avec le quatuor Modigliani qui seront d'ailleurs, ça c'est leur dernier disque et ils seront en concert à Toulouse le 9 avril à l'auditorium Saint-Pierre des Cuisines. Bonjour Rodolphe.
Bonjour Jean-Baptiste Turbin.
Un beau sweatshirt, vous avez même que notre invité.
Mais oui, c'est peut-être pas un hasard. Très très beau disque que j'ai adoré, que nous allons diffuser dans l'émission, de Sergueï Khatchatryan. Je ne sais pas si vous avez écouté ces sonates d'Isaïe, absolument magnifiques, enregistrées sur le violon d'Isaïe, un violon qui a appartenu à Isaac Stern. Et ça va nous accompagner plusieurs jours, parce que c'est quand on aime, vous savez, un disque dans l'émission, et ça a été le cas d'ailleurs avec celui de votre invité, on le diffuse plusieurs fois.
Donc un nouveau coup de cœur tout à l'heure dans
Exactement.
Piste, comme vous en avez eu, hein, pour...
Un grand coup de cœur même.
Florian Noack. Ouais. À tout à l'heure.
À
9h avec Émilie. Merci d'écouter France Musique. Il est 8h30.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
En quelques années, quoi, une décennie, au gré des concerts et des disques, Florian Noack s'est fait remarquer pour son art très subtil, délicat et virtuose, c'est le moins qu'on puisse dire, de la transcription. À 34 ans, le pianiste belge lui consacre cette fois tout un disque, I Wanna Be Like You, paru chez la Dolce Volta. Il dynamise Bach, il donne de nouvelles couleurs à Prokofiev et il paraphrase même quelques valses viennoises. Bonjour Florian Noack.
Bonjour.
C'est vrai qu'avec vos doigts, vous ne faites pas que du piano, vous êtes aussi magicien, prestidigitateur.
Alors, je travaille un peu la magie, j'aime beaucoup ça. Pour le moment, c'est encore vraiment magicien du dimanche, c'est un peu plus l'apprenti sorcier que le grand magicien. Mais j'y travaille et un jour, j'espère arriver à un bon niveau.
Là, dans ce studio, sans préparation, vous pourriez me faire un tour de magie que je décrirai aux auditeurs
ou... Je pourrais faire un petit tour de pièces, mais il me faudrait une pièce de grande taille et un peu plus grande que les euros. Parce que pour les pièces, on utilise en général des demi-dollars. Ah. Il faudrait que je farfouille un peu dans mes affaires, mais ce serait possible.
Écoutez, on a une demi-heure. Hein. La magie, l'illusion, tout point commun avec la transcription, est-il vraiment fortuit?
Non, sans doute pas. C'est des choses qui c'est des plaisirs un petit peu geek. C'est des choses qui sont un peu fascinantes et que moi j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que la transcription, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Mais je pense même au-delà de la transcription, le piano en tant que tel, c'est un instrument qui s'y prête parce que c'est un instrument dont la nature est percussive et on est obligé, je pense, de penser au-delà de l'instrument pour si on veut en faire quelque chose, disons.
De penser comme un orchestre?
Oui, comme un orchestre, ou imaginer plein de choses que, a priori, le piano ne peut pas faire, c'est-à-dire imaginer des notes qui vont crescendo, des notes qui se développent de différentes manières, et voilà, projeter des choses qui sont au-delà de la nature de l'instrument, c'est-à-dire un marteau qui frappe sur une corde. Donc, voilà, je pense que le piano, c'est un instrument un petit peu de, je vais pas dire de substitution, mais c'est un instrument qui invite, je pense, à être dépassé, simplement.
Il y a une frustration?
Oh, je pense pour tous les pianistes, ne pas savoir vibrer, pas savoir changer la justesse, pas savoir vraiment soutenir une note et faire crescendo, c'est une frustration terrible, mais comme toutes les frustrations, ça pousse à la créativité.
Florian Noack est notre invité jusqu'à 9h. Attention, premier tour.
Thank you.
Premier extrait d'I Wanna Be Like You, le nouvel album de Florian Noack, notre invité ce matin. Ça vient de paraître chez la Dolce Volta avec Jean-Sébastien Bach. Troisième mouvement de ce concerto en la mineure 1065, écrit pour quatre clavecins, donc huit mains et un orchestre. Mais c'est une transcription d'un concerto pour violon de Vivaldi. Donc là, on est dans une transcription de transcription. Comment on fait l'illusion avec 10 doigts et 2 mains de transformer un concerto comme ça écrit pour 4 claviers?
Mais disons que c'est évidemment l'exercice est différent suivant chaque pièce qu'on transcrit. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des œuvres qui invitent à ce qu'on étoffe, à ce qu'on rajoute des choses, ou en tout cas qu'on crée une parure typiquement pianistique, par exemple chez Razad qui est sur le disque. Ici c'est un petit peu différent parce que c'est une œuvre qui est déjà... Il y a énormément de polyphonie, donc là c'est plus la question de qu'est-ce qu'on garde et comment est-ce qu'on peut arriver à essayer de... Oui, et forcément on peut pas tout mettre, choisir c'est renoncer. Je pense qu'il y a une partie qui est liée à la pertinence des choix qu'on fait, c'est-à-dire essayer de garder un petit peu de chaque voix même pour essayer de créer l'illusion qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps.
L'illusion qu'il y a plus que deux mains aussi.
Oui, c'est un petit peu, mais ça l'illusion qu'il y a plus que deux mains, ça c'est des... Enfin, déjà au 19e siècle, il y avait Thalberg qui avait cette technique qu'on appelait la technique des trois mains, que Mendelssohn utilise aussi. Il y a plein de trucs, entre guillemets, mais ici c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce que voilà, il y a peu de pièces qui sont écrites pour quatre instruments à clavier. Et puis, je pense que ce qui crée un petit peu l'illusion, ce par quoi on essaie de créer l'illusion aussi, c'est dans la manière de jouer, c'est-à-dire avoir un jeu qui est très vif, qui est très articulé, ce qui donne ce côté un petit peu pétillant et un peu grésillant des quatre clavecins ensemble. Mais voilà, est-ce que ça marche? Ça, j'en sais rien.
Si, ça marche très bien. De toute façon, plus générale, au-delà d'ici Bach, comment vous y prenez? Est-ce que c'est au clavier, au piano, avec un côté un peu instinctif, ou très réfléchi, à la table, comme on dit, avec un crayon, une partition?
Il y a eu un petit peu les deux, en fait. Au départ, quand j'ai commencé à écrire des transcriptions de manière un petit peu sérieuse, c'est quand j'avais 16 ans. Et il y en avait beaucoup que j'écrivais dans le train. Je faisais plein d'allers-retours entre Bruxelles, où j'habitais chez mes parents, et Cologne, où j'étudiais. Et alors, chaque fois dans le Thalys, j'écrivais laborieusement à mes mesures, avec des idées un petit peu abstraites. Et une partie de la récompense, c'était d'arriver à la gare de Cologne, de me jeter sur un piano et de voir si ce que j'avais écrit, ça donnait quelque chose ou pas du tout. Avec le temps, c'est vrai que maintenant, j'ai quand même vraiment besoin du clavier pour essayer. Donc, c'est pas tellement improvisé parce que je suis pas un improvisateur, tout simplement. Mais c'est beaucoup, c'est très très minutieux, c'est très lent, c'est très laborieux. Et en général, pour chaque mesure, comme il y a à peu près 10 000 manières différentes de transcrire la même chose, pour chaque mesure, je mets énormément de temps avant de me décider à noter sur le papier ce qu'on va garder comme version. Donc c'est vraiment très... un peu essai-erreur, mais de manière très poussée, on va dire.
Ça s'apprend? Vous l'avez appris au conservatoire?
Pas du tout.
Vous êtes autodidacte?
Plutôt autodidacte, c'est-à-dire ça s'apprend. Il y a plein de modèles, il y a plein d'exemples. Après, moi, c'était aussi... d'une part, il y avait évidemment l'exemple des autres transcripteurs, mais en fait... Même plus que ça, c'était pour moi... En fait, c'était très bête. Quand j'avais 15-16 ans, je faisais beaucoup de... Ou un peu moins même, je faisais beaucoup d'exercices techniques. J'aimais bien... je sentais que j'en avais besoin. Et puis j'avais envie de développer ma technique. Et en faisant plein d'exercices, ça donnait plein d'idées, de combinaisons de doigts, des idées un peu encore abstraites, de choses qu'on pourrait essayer, de textures pianistiques. Et ça m'a donné aussi un peu des idées, simplement.
Est-ce qu'on parlait de la frustration du pianiste? Est-ce qu'il y a une frustration de compositeur? Est-ce que c'est une forme de composition pour vous, ou ça n'a rien à voir?
Si, tout à fait. Mais en tout cas, j'ai commencé un peu à composer quand j'avais 15-16 ans. Composé sans doute très mal, sans aucun apprentissage.
Vous composez plus aujourd'hui?
Plus du tout. C'était un peu dans un style un peu romantique. Je pense pas que c'était très bien, mais c'était le langage naturel à cette époque-là. Mais je sais qu'en revanche, j'ai toujours été très dubitatif sur la qualité de ce que j'écrivais, mais je sais que j'avais plein d'idées une fois que j'avais mon thème sur comment habiller, comment enjoliver le matériau. Et donc naturellement, quelque part, je suis allé de la composition à la transcription, parce que partir sur quelque chose qui était déjà existant, quelque chose qui est qualitatif, et puis se dire voilà que là-dessus on va mettre toutes ces idées un peu d'habillage et d'enrobage. Donc ça a plutôt été un pas vers l'arrière, on va dire.
Il y a quelques années, vous aviez consacré un disque à Prokofiev. Vous y revenez ici avec la symphonie classique, la première symphonie. Voici un extrait. Revenir à Prokofiev une nouvelle fois ici sur ce disque, Florian Noack.
Mais j'avais une transcription dans mes carnets qui aurait dû en fait figurer sur le dernier disque. Et il y a eu un petit incident, comme voilà une histoire belge ou comme ça m'arrive parfois. C'est qu'en fait le manuscrit n'était pas encore tout à fait fini. Et donc l'avant-veille de l'enregistrement, j'étais dans un café à la gare du Midi, près de la gare du Midi à Bruxelles. Je travaillais encore sur le manuscrit. Voilà, j'arrive à mon enregistrement 2 jours plus tard et là pas de manuscrit, impossible de le retrouver. Donc je me dis, bon, ben, je sais que je l'ai oublié à mon appartement à Cologne. Je retourne à Cologne, toujours pas de manuscrit. Je passe un peu la nuit de l'enregistrement à essayer de réécrire ça de mémoire. Mais bon, enfin, on a autre chose à faire quand on est en enregistrement, c'est épuisant, etc. Donc finalement, je l'ai pas enregistré. Et 3 semaines plus tard, on a retrouvé...
Ça tient un peu de choses.
Ça tient un peu de choses, exactement. Et alors, en fait, finalement, on a retrouvé ce manuscrit 3 semaines plus tard dans la banquette, enfin, entre la banquette et le mur. Et donc, voilà, ça s'est retrouvé sur ce disque-ci plutôt.
Le final de la symphonie classique, la première symphonie de Prokofiev, transcrite et interprétée par Florian Noack, notre invité ce matin. Alors, on n'a pas eu de tour de magie, mais on a eu une histoire belge. Petit point de vocabulaire, c'est quoi la différence entre un arrangement, une transcription, une réduction, il y a même sur ce disque, une paraphrase?
Mais la paraphrase, c'est, je pense que c'est ce qu'il y a de plus libre. Dans la paraphrase, là, il y a des petits épisodes très très brefs de composition, notamment l'intro. En plus, la paraphrase ici, c'est vraiment une pièce qui n'existe pas à la base. J'ai pris différentes valses de Strauss, des extraits qui n'ont rien à voir entre eux, et j'en ai fait une nouvelle valse. L'arrangement, transcription, difficile à dire. Moi, je trouve transcription plus jolie. Après, je sais que c'est des mots qu'il faut éviter auprès des sociétés de droits d'auteur parce qu'il faut toujours prouver qu'on a été suffisamment créatif dans l'arrangement. Donc, mais moi, je trouve transcription, c'est un mot qui est beaucoup plus beau. Donc, voilà. Transcription, arrangement, je sais pas. Mais la paraphrase, en revanche, c'est quelque chose qui est plus libre ou peut-être on s'attribue un rôle un peu plus de... Je sais pas, de recréateur.
Vous parlez de droit d'auteur. Quand on transcrit une compositrice, un compositeur qui n'est pas tombé dans le domaine public, faut demander l'autorisation aux ayants droit?
Ça déjà, mais alors même quand c'est dans le domaine public, il faut en fait prouver, en tout cas en Belgique c'est comme ça, il faut prouver qu'on a eu un apport suffisamment créatif sur l'original. Et alors surtout, on doit toujours déclarer un arrangement, pas une transcription. C'est une transcription, c'est sous-entendu comme étant littéral et donc n'étant pas un arrangement créatif.
On en parlait tout à l'heure avec Rodolphe, ce disque a eu un très très bon accueil sur France Musique de nos camarades d'Empiste. Vous avez eu un Diapason d'or, vous avez eu un Choc Classica. C'est un disque, beaucoup de gens disent c'est un disque joyeux qui fait du bien, un feel good record. Bah, vous assumez la chose,
bah oui,
pour le plaisir.
Oui, parce que c'est le plaisir qui est au départ de ce genre de démarche. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est quelque chose que, enfin voilà, la transcription, c'est quelque chose peut-être d'un petit peu égoïste aussi, puisque voilà, on prend une pièce qui est destinée à être jouée par beaucoup de personnes et on se l'approprie pour soi tout seul. Mais après, c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi étonnant pour moi et en même temps qui fait énormément plaisir de voir que, voilà, cette démarche-là, elle trouve un bon écho, qu'elle crée une sorte aussi de communauté. Il y a des choses parfois un peu rigolotes qui m'arrivent parfois dans des concerts au fin fond des États-Unis. Sur une île près de Seattle, arrive quelqu'un qui a pris le bateau pour écouter le concert avec une de mes partitions qu'on me demande de signer. Enfin, il y a une sorte un peu de communauté comme ça qui se crée de passionnés de piano.
Les geeks de la transcription.
Exactement. Donc voilà, c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir de voir que d'autres personnes se retrouvent aussi dans ce que je fais. Donc voilà, c'est un accueil qui fait chaud au cœur en tout cas.
Très bon accueil, et pourtant vous êtes... paraît-il un sacré angoissé à la sortie, et notamment à la sortie des disques. Là, ça y est, c'est passé.
Non, en fait, je suis un sacré angoissé en général, dans la vie. Pas forcément à la sortie de disque, mais à l'enregistrement de disque. L'avant-veille d'enregistrement, il y a plus rien qui va, quoi. Mes oreilles, mes doigts, mes yeux, c'est l'effondrement. Et puis après l'enregistrement, je me porte comme un charme. Voilà.
Mais pourquoi Florian Noack arranger alors qu'il y a tant de répertoires pour le piano?
C'est vrai. En soi, c'est quelque chose, mais je pense que ça fait partie peut-être de la dimension de plaisir, c'est qu'il n'y a absolument aucune nécessité ni aucune obligation. C'est quelque chose, voilà, je le fais parce que j'en ai envie. Et pourquoi le faire? C'est vrai que je pense qu'on arrive à un degré d'appropriation qui est possible d'avoir avec des œuvres écrites à l'origine, mais le fait d'avoir ici trempé soi-même dans l'écriture du morceau, de l'avoir recomposé et resculpté à sa manière, je pense que c'est quand même un degré de proximité à l'œuvre qui est quand même, enfin, pour moi, incomparable. Et puis bon, mais par exemple, voilà, Scheherazade de Rimsky-Korsakov, il n'y a pas vraiment d'équivalent en piano, en fait. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'équivalent chez Rimsky-Korsakov, déjà, ça c'est sûr.
Ça permet de jouer du Rimsky-Korsakov.
Ça permet de jouer du Rimsky-Korsakov, et puis, je sais pas, c'est quelque chose... C'était l'envie de s'approprier des choses, en fait. L'envie aussi d'apprivoiser l'émotion qu'on a ressentie en écoutant quelque chose dont on se sent toujours un peu séparé parce qu'on ne peut pas le jouer. Et donc, ça, c'était peut-être la nécessité personnelle, disons.
Vous ne craignez pas d'être mis dans une case pianiste-arrangeur?
C'est-à-dire, est-ce que je le crains? Oui et non. C'est-à-dire que c'est un avantage et c'est un désastre. C'est trop tard, déjà. Et puis, c'est un avantage et c'est un inconvénient. Après, en concert, je fais jamais un concert, ou très rarement, je fais un concert que de transcription. En général, il y a des œuvres du grand répertoire, et puis l'une ou l'autre.
Vous n'avez pas peur du grand répertoire?
Ah non, ça pas du tout. Non, ça pas du tout. Ben non, ça n'aurait pas de sens.
T'as peur, mais je veux dire, vous avez fait des disques aussi, vous alliez chercher Lyapunov, même Metner, enfin des compositeurs moins connus.
Mais le disque, c'est quelque chose d'autre que le concert, donc En concert, voilà, récemment, j'étais aux États-Unis, j'ai joué à la dernière sonate de Schubert, des études transcendantes de Liszt, une petite transcription quand même. Mais c'est vrai qu'au disque, je ressens peut-être moins l'urgence de graver maintenant la dernière sonate de Schubert, ça viendra peut-être un jour, alors que voilà, les études transcendantes de Lyapunov ou Metner, ben, voilà, on se sent un peu plus appelé à le faire, disons.
Et puis les frères Sherman, et puis le livre de la jungle.
Ouais, absolument.
I Wanna Be Like You, c'est quoi là? C'est une paraphrase, une transcription, un arrangement, une réduction?
C'est un peu de tout ça en même temps, en fait. Donc c'est C'est en fait une... Enfin, dans ma famille, on a une petite tradition à Noël, c'est qu'on, au lieu de faire un cadeau à tout le monde, on pioche aléatoirement une personne à qui on fait un cadeau un peu plus conséquent. Et donc, dans ma famille, tout le monde est musicien, de près ou de loin, même s'il n'y a que mon père et moi qui sommes professionnels. Donc, ma sœur a très bien joué au piano, et mon cadeau pour elle, c'était cette chanson, enfin, une version de cette chanson de Disney qu'elle adorait.
Prima, dans le livre de la jungle, la musique des frères Sherman, c'est le titre du disque. Il y a aussi forcément une allusion à I Wanna Be Like You, je veux être comme vous, je veux ressembler à un orchestre.
Oui, c'est un peu ça, c'est le rapport à l'original aussi, donc c'est un clin d'œil un peu multiple.
Et puis on n'a pas encore évoqué ça swing, là, le jazz, c'est
oui, tout à fait.
C'est, une autre partie de vous.
Bah c'était en tout cas un des challenges du disque, c'était justement de partir dans des styles de musique très différents et de voir comment le piano pouvait suggérer tous ces univers-là.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Il s'appelle Florian Noack, il va peut-être nous faire un tour de magie d'ici à 9h. Il est pianiste, il est belge, il sort un magnifique disque qui s'appelle I Wanna Be Like You, paru chez la Dolce Volta, Diapason d'or, Choc Classica, disque du jour de France Musique. En concert, d'ailleurs le 21 avril, à l'Auditorium de Lyon, dans la musique de Bettner qu'on évoquait, concerto pour piano avec l'Orchestre National de Belgique, dirigé par Anthony
Yermous.
C'est l'heure d'ouvrir votre diaporama sonore. Florian Noack, première musique.
Donc, il s'agit d'Albinoni, une sonate à Cinque. Et c'est le final, voilà, c'est une œuvre que j'ai découverte à un moment où je commençais à me plonger dans le baroque italien. Et voilà, où j'ai un peu découvert le côté vivant et incroyablement dansant aussi de cette musique. Donc voilà, il y a un plaisir tout à fait hédoniste avec cette musique.
À transcrire éventuellement ?
À transcrire éventuellement.
Tiens, deuxième musique.
Rosenthal, qui était un de mes pianistes préférés, enfin qui est un de mes pianistes préférés, qui était un élève de Liszt, et à qui on doit quelques transcriptions et paraphrases, notamment sur des valses de Strauss.
Comme vous l'avez fait, il y a plusieurs valses hein, sur le disque.
Oui, tout à fait. Donc, bah, lui en a fait quelques-unes, et il a fait, donc ça c'est le Beau Danube évidemment, mais il a fait aussi un Carnaval de Vienne où il reprend des valses différentes, un petit peu sur, entre guillemets, enfin, ou plutôt moi j'ai suivi son modèle, on va dire.
Allez, troisième musique.
Mon père disait, c'est le vent du nord qui fait craquer les digues à Scheveningen, petit. Tellement fort qu'on ne sait plus qui navigue la mer du nord, bien les digues. C'est le vent du nord qui transperce les yeux des hommes du nord, jeunes ou vieux. Pour faire chanter des carillons de bleu venus du nord au fond de leurs yeux.
Donc ça, c'est Mon père disait de Jacques Brel, évidemment. Mais Brel, c'était un coup de cœur de mon enfance, adolescence. Et je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment réussi à... Enfin, là, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais à capturer quelque chose de... Bah forcément de belge aussi dans sa poésie et dans ses chansons. Et voilà, c'est de là que je viens et en même temps, ça fait très longtemps que je vis pas en Belgique, depuis une quinzaine d'années. Avec le temps qui passe, parfois on réfléchit un petit peu plus à ce que c'est ou à d'où on vient et je trouve que c'est. Voilà. Et en particulier, cette chanson a une sorte de poésie un peu grise en même temps que j'aime beaucoup. Et voilà.
Avec derrière des beaux arrangements, j'imagine, de François Robert, l'arrangeur, l'un des arrangeurs de Jacques Brel. On va se quitter avec ça.
Donna, is anyone finer in the state of Carolina? If there is, then you know her. Show to me, Donna, with those Dixie eyes blazing. How I long to sit and gaze him to the eyes of Dinah.
Donc Dinah de Fats Waller, qui est un de mes musiciens préférés, une personnalité que j'adore aussi. Et c'est vraiment de lui que, par lui en fait, que j'ai découvert tout ce répertoire et que je suis finalement arrivé au Livre de la Jungle et à Louis Prima. Donc c'est vraiment un immense coup de cœur, ce musicien.
Dinah Fats Waller, le choix de Florian Noack, notre invité ce matin. Un disque formidable qui est sorti au début du mois dernier, il y a un mois, et Wannabe Like You chez la Dolce Volta. Plein de transcriptions réjouissantes, joyeuses, mais aussi du très très beau piano. Merci, rendez-vous le 21 avril, je le disais, à l'Auditorium de Lyon avec l'Orchestre National de Belgique pour découvrir, pour beaucoup d'entre nous, le concerto pour piano de Mettner. Il n'y en a écrit qu'un ?
Non, il y en a trois et c'est le premier.
D'accord.
C'est le plus beau.
Rendez-vous le 21 avril. Un grand merci à Thomas Guignogagne, Diego Clopes, Flora Sternadel, Julia Macares, Juliette Porchet et Yacine Bouzard. Notre voix mystère, il y a une heure, c'était facile ce matin.
C'est pas loin du cauchemar. Il n'y aura plus personne pour lire. Ils verront de la télévision. On a des postes partout. Dans la cuisine, dans les water closets, dans le bureau. Dans les rues.
C'était le débit de Marguerite Duras. Bonjour Émilie Munera, rebonjour Rodolphe René-Boulmier.
Bonjour Jean-Baptiste. Et on peut dire que Florian Noack sera mardi 9 avril au studio 104 pour les 10 ans d'Empiste.
Eh oui, on sera là.
J'espère bien.
Il reste des places ou pas ?
Bien sûr, il reste encore quelques places et je crois qu'il y a des places qui vont être remises en ligne dans pas longtemps.
S'inscrit sur maisondelaradiodelamusique.fr.
Absolument, c'est ça. Et en attendant, si vous voulez patienter, vous pouvez écouter Sibelius dans Piste ce matin.
À tout de suite.
France Musique, les grands entretiens, Arnaud Merlin à 6h30 et 22h.
Philosophe de métier, compositeur influent, Hugues Dufour se raconte au fil de ses rencontres avec Gilles Deleuze, Duke Ellington, les percussions de Strasbourg ou Pierre Boulez. Le piano, l'électronique, l'informatique, l'orchestre, tout le passionne. Telle est la vie d'Hugues Dufour, un itinéraire au cœur du phénomène sonore.
Les grands entretiens, une émission France Musique à retrouver sur le site et l'appli Radio France.
Ce jeudi à 20h sur France Musique avec l'Orchestre National de France et la soprano Fatma Saïd sous la direction de la chef américano-taïwanaise Mai Han Chen. Nous fêtons les musiques que Philippe Sard a composées pour les films de Claude Sauté, André Téchiné, Bertrand Tavernier ou Georges Lautner. Une soirée au diapason d'un demi-siècle de cinéma français qui se réécoute sur le site de France Musique et l'appli Radio France.
Demain, notre invité sera la flûtiste Anna Besson, France Musique, il est 9h, tout de suite en piste, Émilie Munera et Rodolphe Bruneboulmier.
Bonjour à tous, bonjour Émilie.
Bonjour Rodolphe, Eugène Isaïe au violon ou encore des instruments avant, ça ce sera Richard Strauss.
Et Bach au saxophone, c'est tout de suite.
À réécouter sur francemusique.fr.